Frères et sœurs bien-aimés, vous vous souvenez peut-être que dimanche dernier, c'était la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer et la graine est tombée dans des terrains divers. Et selon où elle est tombée, elle a pu porter du fruit. Et si elle a porté du fruit, voilà, elle a donné dans la bonne terre du 100 pour 1, du 30, du 60. Et c'est d'une certaine manière la continuité de cette parabole. La parabole, elle est là pour nous faire réfléchir. C'est intéressant de voir que Matthieu souligne, et on est dans ce chapitre 13e qui est un chapitre des paraboles du royaume, Matthieu souligne qu'aux foules, Jésus ne parlait qu'en parabole. Accomplissant la parole du prophète, je dirai en parabole ce qui est caché depuis la fondation du monde. Alors on peut dire, mais pourquoi est-ce que Jésus ne parle pas clairement ? Est-ce qu'il n'a pas plus de chances de se faire entendre que de parler par image, par allusion ? Mais il y a des passages où le Christ a parlé clairement et on a bien vu comment il a été traité. « Es-tu le Fils de l'homme ?» lors du procès du Christ. « Oui, je le suis. » Et là, le grand prêtre déchire ses vêtements, voilà, blasphème. Donc pour avoir une chance de se faire entendre, puisque quand il dit les choses directement, ça ne passe pas, il parle en parabole. La parabole est là pour nous questionner, pour nous emmener plus loin, pour partir des choses visibles, parce qu'on est des réalités, on est des personnes faites d'esprit et de matière, et donc on part bien du visible pour avoir accès à l'invisible. Et donc là, on est dans cette continuité de la parabole du semeur, mais avec une particularité, on est dans le cadre où la semence est tombée dans la bonne terre. Ce n'est pas la semence, puisque là on voit bien, c'est que le grain a poussé, a levé, etc. Le développement de la graine semble bon, et puis il y a l'ivraie qui apparaît après. Donc c'est bien la semence qui est tombée dans la bonne terre. Ce n'est pas parce que c'est tombé dans la bonne terre qu'il n'y a pas d'ivraie, qu'il n'y a pas de choses adverses, contraires. Et là, je trouve que c'est intéressant de voir que, à travers cette parabole, le Seigneur, justement, nous invite à être sur nos gardes. Ce n'est pas parce qu'on a reçu beaucoup qu'on est, vous qui êtes fiancés ou vous qui êtes dans le scoutisme, vous avez reçu beaucoup par le scoutisme et peut-être par vos familles, certainement, qu'on ne sera pas, d'une manière ou d'une autre, livré à un combat intérieur, à un combat spirituel, qu'il n'y aura pas de livré en nous. Et parfois, cet livré, on n'a même pas besoin du démon pour la semer, on la sème nous-mêmes en nous mettant dans des situations tout à fait inconfortables et contraires à l'Évangile. Et donc, le Seigneur dit, ce n'est pas parce que tu es une bonne terre, et je pense que nous qui sommes ici, nous sommes des bonnes terres, on va dire comme ça, on espère, pas parce que tu es une bonne terre, que tu seras pas, tu n'auras pas un combat spirituel à livrer. Et vous qui êtes au seuil de votre vie matrimoniale, comme fiancé, vous aurez, dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, un combat spirituel à livrer. Un combat peut-être contre vous-même, hein, contre l'orgueil, l'égoïsme qui nous tente des pièges, et qui s'oppose à la communion, mais un combat aussi contre le démon qui nous tente. Le démon, comment est-ce qu'il tente ? Il tente par l'imagination. Il nous fait penser que, quelque part, en dehors de la volonté de Dieu, il y a plus de bonheur que dans la volonté de Dieu. L'herbe du voisin est toujours plus verte que la nôtre. Et donc, vous aurez dans votre vie matrimoniale aussi cette expérience de penser que peut-être avec quelqu'un ça aurait été mieux. Alors, jusqu'au jour de votre mariage vous pouvez changer, mais dans le mariage à l'église, il y a un avant et un après. Il y a un effet de cliquer. Donc du coup c'est intéressant de prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris, qui sont troublés de par peut-être des images qui leur passent dans la tête, etc. Jésus nous invite, vous qui êtes une bonne terre, vous serez aussi livrés au combat spirituel. D'où l'importance de prendre les armes du combat spirituel. Parce que si vraiment vous êtes dans une vie chrétienne et que vous allez être livré aussi au combat intérieur, et si vous ne prenez pas les armes de la vie spirituelle, comment voulez-vous livrer le bon combat? Comment voulez-vous ne pas chuter? Et on voit bien que quelles sont les armes de la vie spirituelle, si ce n'est la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu, les sacrements, ce sont des choses que l'Église propose à tous les fidèles pour justement garder les fidèles et se garder dans la volonté de Dieu, se garder dans le choix que l'on a fait de l'autre pour la vie matrimoniale ou le choix que l'on a fait de vivre l'Évangile. Parce que ce n'est pas spontané, vivre l'Évangile. Ça n'a rien de spontané. Je me souviens comme ça de cette jeune fille qui me disait, vraiment, elle avait beaucoup reçu dans sa vie de famille, etc. Elle me dit, mais parfois j'en ai ras-le-bol d'être chrétienne. J'ai envie de tout balancer par-dessus bord. Parce que la vie du monde, ça semble tellement plus simple. Il se pose tellement moins de questions. Le Seigneur, il nous pose trop de questions. Il peut y avoir ce combat intérieur. Bon, ça s'est terminé plutôt par un happy end, mais ça aurait pu que non. Maintenant, quand on a connu le Seigneur, c'est difficile de dire qu'on ne l'a pas connu. Hein? Tu étais dans mon cœur comme un feu dévorant. Donc voilà, cette parabole du bon grain de livret. Et je trouve que c'est intéressant, comme le dit, c'est surprenant, on aurait pu dire que le Seigneur enlève la mauvaise herbe. Non, parce qu'en enlevant la mauvaise herbe, tu peux enlever quelque chose que Dieu a semé en toi. Et il faut les moissonneurs, et Jésus, l'avantage c'est que Jésus donne l'explication de texte, mais même s'il fait l'homélie, il faut que le curé quand même rajoute sur l'homélie que le bon Dieu a faite. Donc du coup, Jésus, les moissonneurs sont les anges. Pourquoi? Parce qu'il faut l'intelligence angélique pour discerner le vrai du faux en nous. Nous qui sommes empêtrés dans la matière, nous n'avons pas l'intelligence, le discernement suffisant pour voir en nous qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, et qu'est-ce qui semble être de Dieu, mais en fait, où le démon apparaît comme un ange de lumière, mais pour nous écarter de l'Évangile. D'où l'importance des anges gardiens. L'ange gardien ne sert pas seulement à trouver une place de parking, même si c'est très utile, je vous recommande ça, mais l'ange gardien sert à éclairer notre intelligence pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu et discerner. Et même le bon Dieu lui-même, le Seigneur, on voit le rôle des anges dans la vie de Jésus, que ce soit à la tentation, ayant épuisé en toute forme de tentation, le démon le quitta et les anges le servaient. Ou alors à l'agonie, l'ange de l'agonie, pour soutenir le Christ dans son humanité et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, parce qu'il était tenté dans son humanité, pas dans sa divinité, évidemment, ça ne voudrait rien dire. Donc du coup, je trouve ça intéressant de voir aussi le rôle des anges. Quel est notre contact avec le monde invisible? Quel est notre contact avec l'Église céleste? Quel est notre contact avec les saints, avec les fidèles défunts? Est-ce que c'est quelque chose aussi que l'on porte dans notre prière? Est-ce qu'on demande leur aide? Si on demande l'aide à personne, comment vous voulez pas chuchoter? Mais le monde n'est que rempli d'obstacles. Parlait juste avant la messe de la fidélité. Quand vous voyez que des affiches 4 par 3 de sites qui invitent à des rencontres extra-conjugales, comment voulez-vous vous dire, ouais, c'est normal, en fait, tout le monde fait ça. Ben non. Donc voilà, je crois que c'est important que, premièrement, de ne pas se décourager. Et puis aussi, je me dis, il y a peut-être une autre manière, au lieu de voir livrer, de voir combien Dieu a semé de bons grains en nous. Et si le Seigneur nous demande de ne pas acheter les livrets, c'est peut-être aussi pour que ce bon grain puisse de plus en plus prendre de la place, se répandre, ce qui fait qu'à la fin, il occupe tellement de place qu'il n'y a plus assez de terre pour que l'ivret puisse pousser. Et donc la fécondité de nos vies, c'est aussi laisser le Seigneur, ne pas le voir comme un ennemi, mais laissez-le prendre la place en vous, pour que justement il n'y ait plus de temps, plus de place pour céder aux invitations du mauvais. Alors voilà, c'est ça qu'on va demander au Seigneur dans cette Eucharistie, c'est pour ça qu'on communie. On communie non pas parce qu'on est bon, mais on communie parce qu'on sent qu'en nous, y a un combat intérieur, et la communion est là pour nous soutenir dans notre combat intérieur. Parce qu'on est les parfaits, on est les justes ici, au milieu des pécheurs dehors, pas du tout. Parce qu'on a expérimenté et le bon grain est livré en nous. Alors demandons à Jésus qu'il nous aide et qu'en cette communion, on puisse trouver des forces pour être fidèles comme disciples du Christ.